Philippe, déjà le quatrième entretien.
Ben oui, c'est déjà la fin.
Celui-ci avec Éric Duhaime, un entretien qui, même avant d'être enregistré, était un peu controversé. C'est pas tout le monde qui était d'accord avec le fait qu'on le reçoive, qu'on lui donne une tribune. Mais pour nous, ça semblait, ben, je veux dire, essentiel.
Ben oui, ben déjà, à la base, il y a déjà une députée à l'Assemblée nationale du Québec qui est de ce parti-là. Donc, ça montre déjà qu'il y a une voix qui est portée par rapport à ce parti. Donc, il y a une place qui peut être donnée. Donc, et sans parler non plus, aussi des sondages qui leur donnent quand même une bonne place dans les intentions de vote.
Et je pense que même pour ceux qui ne sont pas d'accord avec les idées de M. Duhaime, ça ne donne absolument rien de le marginaliser ou de ne pas lui donner une plateforme. S'il y a des gens au Québec qui considèrent qu'il devrait en avoir une, qu'on soit d'accord ou pas, il faut l'écouter, il faut comprendre ces gens-là. Ils font partie de notre société.
Mais c'est qui Éric Duhaime?
Oui, on le caricature beaucoup, Éric Duhaime, et peut-être qu'il se caricature un peu lui-même, mais c'est quand même quelqu'un qui a une expérience assez importante, qui est très éduqué.
Oui, maîtrise en administration publique.
Absolument, et qui a été très connu pour ses positions sur l'obligation vaccinale, plutôt sur son refus de l'obligation vaccinale. Pour comprendre Éric Duhaime, il faut comprendre le libertarisme, parce que c'est la doctrine à laquelle il adhère, et c'est une doctrine politique voulant que le gouvernement ne devrait pas se mêler de la vie des gens. Donc, il ne croit pas en l'idée de l'État-providence et il voudrait une liberté des gens presque à l'extrême. Si on pousse le libertarisme au plus loin possible, on peut, par exemple, penser au fait que le gouvernement ne devrait pas pouvoir nous obliger à porter une ceinture de sécurité, par exemple, ne devrait pas nous obliger à, je sais pas, se faire vacciner, c'est l'exemple qu'on a en ce moment. Mais ça peut être poussé très loin. Éric Duhaime le prend à un certain niveau, mais c'est essentiel pour comprendre ce qu'il est en tant que politicien.
Un autre truc qui a été assez intéressant pour le comprendre, peut-être une autre facette, ça a été toute sa vision d'enjeux sociaux, dont les LGBTQ+, et les enjeux féministes. J'ai eu le plaisir de lire cette année le livre « La fin de l'homosexualité et le dernier gay », un livre qui l'a sorti, bon, d'une part pour faire un coming out, mais aussi d'autre part pour envoyer des critiques envers ce qu'il appelle le lobby gay et le lobby féministe. En tout cas, on fera référence à ça durant le balado. Lui qui a été donc aussi, je voulais le souligner, qui a eu quand même des antécédents politiques. Non seulement a-t-il été animateur dans des radios de Québec, mais il a aussi été collaborateur de l'ADQ pendant quand même une couple d'années. Donc, vraiment, une personne plus complexe qu'on pourrait le penser, ce cher Éric Duhaime. Et donc, on espère que vous allez le découvrir autant que nous.
Bonne écoute!
Eh bien, un gros, gros, gros merci d'avoir accepté.
C'est un plaisir.
L'invitation, là.
Merci de me faire remonter dans le temps.
Dans les bureaux du CISM.
C'est quand même étonnant de la radio de Québec à CISM. Vous êtes passé par les deux, là.
Oui, j'ai tout fait. Les studios de radio, honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. Je ne suis pas passé là, au Québec. Là, j'ai fait pas mal de tours.
Y a-t-il une différence dans l'expérience entre la radio montréalaise et la radio
ah ben
de
oui,
Québec?
Ça n'a rien à voir, la radio de Québec et la radio de Montréal. C'est pas ces deux univers. À Québec, c'est une radio d'opinion, c'est une radio qui est pas formatée, qui est très libre. À Montréal, tout est formaté, tout est taxé, tout est des petites capsules, c'est pas...
Ouais.
J'ai entendu beaucoup d'entrevues avec vous, puis la première question que les gens vous posent d'habitude, c'est est-ce que vous êtes correct à Montréal? Est-ce que les gens vous lancent des tomates? Puis vous dites, ben moi, à Québec, je suis assez correct. Les gens ne me lancent rien. À Montréal, c'est un peu plus compliqué. Il existe vraiment ce clivage-là, Montréal-Québec?
De moins en moins. Je trouve que parce que évidemment depuis que je suis devenu chef d'un parti politique, ça, la réalité a changé. Là. J'ai moins d'exposition un peu dans les radios de Québec, puis j'en ai plus dans les médias montréalais. Donc, il y a une espèce d'équilibre qui est en train de se faire. L'autre élément, c'est que on est vraiment dans un nouveau clivage politique. T'sais, avant ça, c'était vraiment le clivage gauche-droite, un peu Montréal-Québec. Mm-hmm. Là, on est vraiment dans un clivage post-crise sanitaire, où c'est des gens qui réclament plus de liberté versus des gens qui réclament plus de sécurité de la part du gouvernement. Donc, et là-dessus, on rejoint beaucoup de Montréalais. Ça a pas, à Montréal, il y a quand même beaucoup de communautés culturelles. Des gens qui sont venus ici pour la liberté. Ils ne sont pas venus ici pour un gouvernement qui leur dit quoi faire, comment faire, à quelle heure pouvoir sortir de la maison ou pas, puis quel papier présenter quand tu rentres dans un resto. Et c'est des raisons pour lesquelles ils ont fui leur pays d'origine souvent. Donc, ils se reconnaissent dans notre discours. L'autre truc, c'est qu'il y a à peu près 20 % des solidaires, ceux qui étaient Québec solidaire, c'est principalement à Montréal, davantage là, qu'ailleurs au Québec, qui sont maintenant avec nous. Moi, c'est l'aile, je les appelle l'aile hippie un peu du mouvement. C'est les gens qui sont plus vivre et laisser vivre. C'est des gens qui sont plus dans les médecines douces, dans le yoga, dans les, un petit peu plus dans cette mouvance-là, qui n'ont pas beaucoup apprécié que le gouvernement leur dise quoi mettre dans leur corps, pas quoi mettre dans leur corps. C'est des gens aussi qui ont peur des obligations gouvernementales. Fait qu'il y a comme une aile de Québec solidaire qui n'aime pas l'économie. Ce n'est pas des gens qui sont avec nous pour des raisons économiques, mais pour des raisons de droits civiques. T'sais, historiquement, c'était quand même un parti qui défendait les minorités, Québec solidaire. Là, bizarrement, depuis le début de la crise, c'est le Parti conservateur du Québec qui défend les minorités puis qui dit que tous les Québécois doivent être égaux puis qu'on doit unir les Québécois plutôt que les diviser. Donc, ce nouveau clivage-là fait que la polarisation Montréal-Québec est peut-être un peu moins présente. Cela étant dit, il reste quand même un fond. Il ne faut pas penser que c'est inexistant. C'est évident que le Parti conservateur du Québec, s'il y avait une élection aujourd'hui au Québec, on ferait élire beaucoup de députés dans la région de Québec, puis on n'en ferait peut-être pas élire à Montréal. Les chiffres sont encore beaucoup plus solides à Québec. Selon le dernier sondage de la semaine dernière d'Angus Reid, on est à 34 % des intentions de vote à Québec. La CAQ est à 36. Donc, c'est un écart de 2 % aussi bien dire qu'on gagnerait la moitié des comtés, là, ou à peu près. À Montréal, on n'est pas encore dans cette réalité-là.
Et là, nous, aujourd'hui, on est... C'est sûr que, veux pas, on aimerait ça qu'aujourd'hui, ce qu'on dit, ça rejoigne un auditoire large, mais ça va sûrement être des jeunes Montréalais. Mm-hmm. Est-ce que tu penses que ta plateforme peut quand même les séduire?
Ben, en fait, elle les séduit beaucoup. C'est principalement chez les jeunes qu'on va chercher nos appuis. Ça, c'est un autre truc qui est très différent. Historiquement, les gens pensent que le Parti conservateur, c'est un parti pour les personnes plus âgées. Mais si vous regardez la démographie du vote actuellement, c'est la coalition Avenir Québec de François Legault qui représente beaucoup, beaucoup les aînés. En fait, c'est la seule tranche d'âge où ils sont dominants. Et imaginez l'avance qu'ils ont présentement dans les sondages. Dites-vous que chez les aînés, c'est 2 à 3 fois plus important. Donc, les jeunes n'ont pas apprécié se faire confiner. Ils n'ont pas apprécié couvre-feu. C'est la clientèle la moins à risque. C'est la clientèle qu'on a endettée avec les déficits records qu'on a enregistrés pendant la crise. C'est des gens qu'on a complètement oubliés. Puis encore plus jeunes, quant à moi, c'est des gens qui n'étaient pas à risque, à qui on a imposé des masques du matin au soir, à qui on a empêché d'avoir des activités sportives, à qui on a empêché de socialiser avec leurs amis à un âge où c'est ultra important. Vous savez, moi, là, après 50 ans, là, avoir un couvre-feu à 8 heures puis me coucher à 9h30, c'est pas la fin du monde. Mais je me rappelle que j'ai déjà eu 20 ans, puis j'ai l'impression que Jean-François Legault l'a oublié. Il y a des exemples qui sont tellement... Cette semaine, j'ai été très ému. J'ai fait un discours très émotif du côté de Valleyfield parce que j'étais avec une candidate, notre plus jeune, Héloïse Coulombe, qui a 19 ans, qui a... Ils ont scrappé sa graduation. Puis j'expliquais comment ça a été pour moi un moment ultra important dans ma vie. Ça a été un moment charnière. Puis je suis pas tout seul, là. Il y a plein de monde. Vous vous souvenez tout le monde où ce qu'on était le soir de notre graduation. Les dernières minutes avant que la cloche sonne de notre dernière année de secondaire... Quand on savait que nos chums avec qui on avait passé toute notre enfance, qu'on les reverrait peut-être plus, en tout cas bien moins souvent, puis qu'on aurait un nouveau groupe d'amis dans quelques semaines, puis que nos chemins allaient se croiser. Tu sais, c'est un moment hyper important dans la vie. Puis il y a une génération là, qui va passer ça dans son sous-sol devant un écran d'ordinateur. Ça n'a aucun sens qu'on a fait subir à ces gens-là. Et j'ai confiance que ces gens-là vont s'en souvenir. En fait, le problème, la peur que j'ai, c'est pas qu'ils voteront pas contre François Legault. Je suis convaincu que les politiques sanitaristes de la CAQ n'attiraient pas du tout la nouvelle génération. Ce qui me fait peur, c'est qu'ils restent chez eux puis qu'ils votent pas. Mm-hmm. Et c'est ça le vrai défi qu'on va avoir le 3 octobre prochain, c'est de s'assurer que toutes les générations vont voter, pas juste celles de 50, 60 ans et plus.
La liberté de choix puis la liberté sanitaire avait beaucoup de place dans la dernière année, dans les quelques dernières années, mais vous avez une approche plutôt libertarienne de liberté à presque absolue pour l'ensemble des choses. Qu'est-ce que ça a comme impact? Vous parliez d'égalité aussi. Est-ce que c'est possible d'avoir les deux?
Bien, moi, je pense que oui. Je vais vous donner un exemple. Nous, la liberté, pour nous, ça se décline dans plusieurs façons. Par exemple, au niveau économique, on le sait, là, il y a une crise économique qui s'en vient. On voit l'inflation qui monte. Tu sais, pour les jeunes, là, c'est particulièrement inquiétant. Quand on voit le prix des maisons grimper, quand on voit les taux d'intérêt monter, ce qu'on est en train de dire à la nouvelle génération, c'est que vous allez être des locataires toute votre vie. Parce que si la réalité comme ça s'accentue, à moins d'avoir papa au moment qui vous donne les clés d'une maison ou qui vous donne 300-400 000 piastres, vous n'aurez jamais accès à la propriété. Puis ça, c'est vraiment triste, là. On est en train... Moi, c'est pour ça que je me suis impliqué en politique. Hein. D'ailleurs, mon premier livre que j'ai écrit, c'était « L'État contre les jeunes ». Moi, ce qui m'a... J'étudiais à l'époque à l'Université, à l'École nationale d'administration publique. Je terminais ma maîtrise. Puis j'avais constaté que, pour la première fois de l'histoire du Québec, on préparait, on planifiait au niveau des politiques publiques l'appauvrissement d'une génération au détriment d'une autre. Il y avait des politiciens qui voulaient acheter la prochaine élection en hypothéquant l'avenir de la prochaine génération. Puis ils ont tellement bien réussi qu'aujourd'hui, c'est une réalité. Et ça, c'était pas un accident. C'est pas parce qu'il y a eu une crise ou c'est pas parce qu'il y a eu un événement non prévu. C'était planifié par des politiciens qui ne pensaient qu'à court terme à se faire réélire. Puis ça, il faut que ça cesse au Québec. On ne peut pas continuer ça. On a un devoir de responsabilité. On ne peut pas continuer à endetter la prochaine génération puis la faire vivre de plus en plus pauvre pour s'assurer des jours meilleurs puis pour assurer qu'on va, se faire, on va avoir des votes le 3 octobre prochain. Moi, je pense que ce moule-là, il ne fonctionne plus. Et il faut qu'on ait, il faut redonner espoir. Puis toutes les générations ont droit d'accéder à la propriété. C'est pas un luxe de s'acheter une maison puis de rêver d'avoir avec une famille, de fonder une famille, d'avoir sa propre maison puis d'être maître chez nous ou libre chez nous, comme dit notre slogan. Donc, le, je pense que ça rejoint aussi la nouvelle génération. Je vois que la déréglementation pourrait permettre ça, les barrières à l'entrée, l'ouverture du privé en matière de santé, parce qu'on le sait, on fait face à une population qui est de plus en plus vieillissante, les coûts de la santé explosent. Si on ne trouve pas une façon d'offrir des meilleurs soins à meilleurs coûts, on n'en sortira jamais parce qu'il y a de moins en moins de travailleurs qui payent pour de plus en plus de retraités malades. C'est ça que ça veut dire. Donc, il va falloir qu'on trouve une façon qu'il y ait de l'argent neuf qui rentre dans le système puis qu'il y ait une efficacité accrue. Parce que là, présentement, on met 1 milliard de dollars par semaine dans notre système de santé. Et malheureusement, les résultats ne sont pas au rendez-vous. L'autre exemple que je pourrais vous donner, c'est les ressources naturelles. Vous savez, le Québec s'est développé parce qu'on a toujours exploité de façon responsable nos ressources. Il y a un paquet de régions au Québec qui n'existeraient même pas si on ne développait pas et on n'avait pas exploité ces ressources-là. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui a été élu en nous promettant d'exploiter nos hydrocarbures et qui vient d'adopter, il n'y a pas un mois, un projet de loi pour empêcher toute forme d'exploitation de nos hydrocarbures. Moi, je m'excuse, mais être dépendant à 100 % du gaz et du pétrole étranger, on voit présentement ce qui se passe en Ukraine, ce n'est pas une bonne idée. On voit que le Québec a des ressources, on a du gaz, du pétrole, on a une richesse, on préfère travailler des jeunes, on pourrait avoir des normes environnementales beaucoup plus sévères que les endroits d'où on importe notre gaz et notre pétrole. Mm-hmm. On en a encore pour 50, 60, 70 ans. Est-ce qu'il y a une croissance de la demande du gaz? Juste pour vous donner une idée, là, comment, oui, on va sortir, puis oui, on va faire une transition écologique, mais ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Il faut planifier ça, et en attendant, bien, assurons-nous d'être libres chez nous, c'est-à-dire de ne pas dépendre à 100 % du gaz et du pétrole étranger.
Pour vous, la question d'indépendance est hors de question ou, ben, en tout cas, vous dites pas tout de suite?
Je pense que c'est la question de l'indépendance du Québec. D'abord, il faut que vous sachiez que j'ai milité longtemps pour la souveraineté du Québec. Question. J'ai voté oui lors du dernier référendum de 1995. Cela étant dit, je suis un démocrate. Les Québécois ont dit non à deux reprises. Je ne sens pas d'appétit pour rouvrir ce débat-là. Puis là, je vais pointer votre génération du doigt un peu, mais c'est pas accusateur, puis c'est pas péjoratif ce que je vais dire. C'est juste une constatation que les temps ont changé. Je sens que c'est une génération qui est plus individualiste, qui pense davantage à son bien-être puis à sa réussite personnelle, ce qui est tout à fait louable, pour qui le projet collectif d'indépendance est peut-être un peu moins urgent. Moi, je pense pas que le Québec doit dire non à jamais à son indépendance. Moi, je veux que la prochaine génération, si elle le souhaite un jour, puisse rouvrir le débat. Je pense que c'est normal qu'un peuple puisse avoir cette option-là. Cela étant dit, il n'y a pas d'appétit à l'heure actuelle pour rouvrir ce débat-là. Ça serait affaiblir le Québec. Ça fait 50 ans que les Québécois se chicanent entre eux sur ce sujet-là. On a, en tant que collectivement, le Québec, là, s'est appauvri et a perdu du temps avec ce débat-là. Autant les tenants du non que du oui ont perdu. Et quant à moi, il n'y a personne qui n'a rien gagné. Le Canada a été uni, le Québec a été divisé. Moi, ce que je souhaite, c'est que les Québécois s'unissent puis qu'on se trouve des alliés qui pensent comme nous, qui sont des décentralisateurs ailleurs au Canada puis qu'on lutte contre les politiques centralisatrices de Justin Trudeau à Ottawa.
Même dans tous les enjeux qui étaient très présents dans les années 60, la question d'indépendance, mais aussi de protection de la langue française, vous n'êtes pas un grand fan?
C'est-à-dire que je considère que le français, c'est la langue commune au Québec. Il faut quand même rappeler ça. Puis c'est très important. Puis c'est ce qui nous distingue. C'est ce qui fait notre spécificité puis notre richesse à plusieurs égards. Cela étant dit, encore là, on s'est beaucoup battu entre les Anglo et les Franco au Québec. Là, on a joué là-dedans aussi les politiques linguistiques qui divisent. Je regarde M. Legault qui vient de présenter un projet de loi, le projet de loi 96 qui vient d'adopter à l'Assemblée nationale. Un projet de loi qui fait beaucoup de chicanes, mais qui est loin de faire en sorte que le français se porte mieux ou moins bien à Montréal depuis qu'ils ont adopté ça. Là, ça change à peu près rien, sauf écœurer les anglophones. Je trouve que c'est picosser pour picosser et on n'a pas de temps à perdre là-dedans. Moi, je veux unir les Québécois. Je constate que les anglophones ont changé. Le visage des anglo-montréalais n'est pas celui des années 60, 70 ou même des années 80, 90 dans lequel j'ai vécu. Je constate que 75 % des enfants inscrits dans des écoles anglophones au Québec présentement sont soit dans des écoles bilingues ou dans des classes d'immersion. C'est un énorme progrès. Les anglophones du Québec n'ont jamais été aussi bilingues qu'ils le sont présentement. À un moment donné, c'est beau chialer, mais il faudrait aussi célébrer les avancées. Puis le Québec a progressé, puis les anglo-québécois aujourd'hui devraient être nos alliés plutôt que nos adversaires dans le combat pour faire du Québec un endroit francophone, mais où les individus sont bilingues. Moi, mes parents, ils ne parlent pas un mot anglais, OK? Ils m'ont envoyé à prématernelle en anglais. J'ai eu la chance d'être bilingue très rapidement, très jeune. Puis ça m'a permis d'avoir une carrière à l'international. Ça m'aide beaucoup, même encore aujourd'hui, comme chef politique. Et je souhaite à tous les Québécois, je pense que les parents qui nous écoutent ou les futurs parents souhaitent aussi que leurs enfants soient bilingues. Dans le monde, en 2022, là, surtout avec les nouvelles technologies en plus, je pense que c'est une richesse d'être bilingue, c'est pas une faiblesse. Puis Montréal a la chance d'être la ville la plus bilingue du continent. Puis ça devrait être une richesse, pas une source de division puis de chicane.
Ben là, je vais passer du coq à l'âne complètement, malgré cet envolé passionné. C'est ça. Juste pour aller sur une question qui est inévitable pour les jeunes, je pense, c'est la question de l'environnement.
Oui.
On veut juste clarifier peut-être un peu, c'est quoi les grandes lignes du Parti conservateur du Québec concernant l'environnement?
C'est important. D'abord, c'est sûr que c'est une question qui est beaucoup moins discutée qu'il y a 3 ans. Tu sais, je me souviens, il y a une époque, c'était quasiment le sujet dominant. Là, aujourd'hui, tout le monde parle de la crise sanitaire, du système de santé, puis surtout de la crise économique qui nous pend au bout du nez. Je pense que les enjeux ont un peu changé. Pour ce qui est de l'environnement, moi, je suis quelqu'un de résultat. Je n'aime pas que le gouvernement utilise une crise, la climatique dans ce cas-là, pour créer des nouvelles taxes, puis prendre plus de place, puis plus d'intervention de l'État. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui croit à une intervention excessive de l'État. Cela étant dit, on veut tous vivre dans un environnement plus sain. Moi, je suis un gars de résultats. À Québec, par exemple, on propose présentement la gratuité au niveau du transport en commun, parce que pour l'environnement, si on veut faire quelque chose de concret, il faut qu'il y ait moins de voitures sur les routes. Ça commence comme ça.
Mais ça, c'est juste un gouvernement qui peut mettre en place ce genre de loi. Comment on fait pour faire reculer la place du gouvernement et proposer des mesures pour l'environnement?
Présentement, le gouvernement propose que, par exemple, dans la région de Québec, puis ça à Montréal, c'est avec le REM, mais à Québec, c'est un tramway. C'est 4,2 milliards. Ça, c'est avant les dépassements de coûts qui sont inévitables compte tenu de ce qui se produit présentement avec la hausse des matériaux. Mm-hmm. Donc, on est devant le fait qu'on a on veut investir dans des grosses infrastructures sans avoir de résultats. C'est-à-dire que quand on regarde à Québec, là, le tramway n'ira pas plus vite. Il n'y aura pas nécessairement plus de monde. On va abattre 2000 arbres. On va éliminer du stationnement. On va enfantianiser la vie du monde pendant des mois de travaux. On va... Tout ça pour 4 milliards de dollars. Si on met la gratuité du transport en commun, qui en période en plus où économiquement, ça devient de plus en plus difficile pour certaines familles de joindre les deux bouts, moi, je pense qu'on va augmenter le nombre de gens qui vont utiliser le transport en commun. Donc, on va diminuer la circulation sur les routes. On va aider. Ça va être gagnant-gagnant autant pour les automobilistes que pour les passagers du transport en commun. Et ça va coûter 1,6 % du budget du tramway. Fait qu'on pourrait, pendant 60 ans ou 70 ans, sans calculer les intérêts sur le 4 milliards, offrir la gratuité du transport en commun. Je trouve que c'est des mesures concrètes. Moi, ça me parle. Mais me parler d'investir dans du béton, puis couper des arbres, puis faire des îlots de chaleur au nom de l'environnement, puis éliminer 11 acres de terre humide, j'ai bien de la misère à comprendre en quoi ça va être positif pour l'environnement, un tramway à Québec.
Et la gratuité à Montréal, est-ce que ça pourrait t'intéresser?
Ben oui, c'est ça. Ce qu'on a demandé, c'est que on veut que ça soit une espèce de projet pilote. C'est-à-dire qu'on veut voir si oui ou non les gens sont prêts à abandonner leur voiture. Parce que c'est possible aussi, là, on a une culture du char en Amérique du Nord, qu'on le veuille ou non. Là, on se compare toujours à l'Europe, mais on n'est pas des Européens, pas en tout. Puis on n'a pas le climat de l'Europe, on n'a pas les distances de l'Europe, on a une réalité très nord-américaine, puis faut en tenir compte quand on prend des décisions en matière de transport collectif. Maintenant, on va le mesurer, on va voir si oui ou non c'est le cas. Sinon, il y a d'autres possibilités aussi. Moi, je pense qu'il ne faut pas... Il ne faut pas voir le... Moi, je ne crois pas à la simplicité volontaire. Là. Vous avez peut-être remarqué ça. Là, le discours de Québec solidaire, ça ne me rejoint pas parce que moi, je pense que c'est les nouvelles technologies puis c'est le progrès qui va nous permettre d'avancer en environnement. Ce n'est pas de retourner en arrière. Ce que je veux dire, c'est que je regarde les nouvelles technologies. C'est évident que j'ai fait moi-même, j'avais été à l'usine Volvo à Stockholm il y a 10 ans avec des autos, là, pas de pilote, pas de volant puis avec des autos qui étaient intelligentes. Et avec un réseau qui était tout informatisé, puis ça m'avait vraiment impressionné. Puis la seule raison pour qu'on ne l'a pas encore, c'est parce que la réticence des gens de se promener dans une voiture, pas de chauffeur, est très grande, puis je comprends, là. Mais quand on va dans un manège où on n'a pas de la même réserve, mais à un moment donné, ça va venir. Donc, est-ce qu'on va tous avoir des autos, tu sais, sur commande? Est-ce qu'on va tous... Tu sais, il y a possibilité de faire des progrès. Là. C'est pas, moi, je pense que la technologie va nous aider et non pas nous nuire. Puis c'est ça, une société qui progresse. C'est pas une société qui arrête le progrès artificiellement avec des gouvernements qui interviennent puis qui taxent. C'est en laissant les individus libres. C'est le cerveau humain puis l'intelligence du monde qui fait qu'on améliore l'environnement dans lequel on vit.
Mm-hmm. Bien, j'aimerais aussi explorer sur un autre ordre d'idée tout ce qui concerne un peu plus... la défense des droits des minorités ou en tout cas des personnes marginalisées. J'ai eu le plaisir de lire Le Dernier Gay, qui parlait de lobby féministe, lobby LGBT. Aujourd'hui, au moment où on enregistre, ça fait 20 ans qu'il y a eu le premier mariage d'union civile au Québec. Je voulais savoir, à la vue de ce que j'ai lu, et que en tout cas, c'était très intéressant, j'ai appris notamment sur les bains à Québec, est-ce que... il y a des avancées qui peuvent toujours être faites par le gouvernement du Québec en ce qui a trait notamment au LGBT ou ce qui reste, c'est pas mal ce que tu appelles le lobby gay?
Mais d'abord, je veux dire que je suis le premier chef ouvertement gay d'un parti conservateur dans l'histoire du Canada, autant au niveau provincial que fédéral. Il y en a peut-être eu, mais ils l'ont pas dit bien fort.
C'est pas ouvert.
Et donc, c'est déjà une note, un changement de paradigme. L'autre truc, c'est qu'il faut se féliciter. Là. Le Québec est une des sociétés... les plus avancés à cet égard-là, les plus tolérantes à plusieurs égards. Puis ça aussi, on s'en félicite pas souvent. On essaie de trouver d'autres causes. Et moi, je m'excuse, mais quand on est rendu que le gros débat, c'est de savoir s'il faut mettre le visage d'une fille, d'un gars ou de quelque chose entre les deux sur une porte de toilette, on est loin des revendications fondamentales et des droits civiques, quant à moi. Je pense qu'il y a beaucoup de progrès qui a été fait. Puis la meilleure façon de promouvoir l'égalité, c'est de faire ce qu'on fait tous, c'est-à-dire qu'on en tient... C'est, les Anglais disent « irrelevant », mais c'est pas un enjeu. Et pour moi, j'espère que c'est pas un enjeu. Moi, j'espère que les électeurs, le 3 octobre, ne voteront pas pour moi ou contre moi en fonction de mon orientation sexuelle. Je pense qu'on est ailleurs. Oui, il y a des cas de discrimination, mais le système est pas... Il n'y a pas d'homophobie systémique au Québec. C'est faux. En fait, le système, il est du côté de celui du gay ou de la lesbienne qui va être discriminé. Il n'est pas du côté de l'homophobe. Et donc, le changement a déjà été fait. Puis oui, il reste, il va toujours avoir des gens qui vont avoir des revendications, tout ça. Mais je pense qu'on est plus à une époque aujourd'hui où on doit célébrer l'égalité plutôt que de continuer à revendiquer.
Est-ce qu'on te trouvera à la fierté de Montréal?
Je ne pense pas. Non, j'ai pas... Moi, je ne suis pas fier d'être gay, comme je n'ai pas honte d'être gay. Je suis gay comme une caractéristique qui me définit, mais je n'ai pas le besoin de revendiquer d'être gay. Je me considère égal. Comme je n'ai pas besoin de revendiquer le fait que je suis un homme plutôt qu'une femme, mm-hmm. comme je n'ai pas besoin de revendiquer le fait que ma peau est plus blanche que d'autres, je ne ressens pas ce besoin-là.
Tu parlais de certains actes de discrimination, certains actes isolés. Tu n'as jamais eu peur que ça t'arrive à toi?
Bien, ça m'est peut-être déjà arrivé, je ne sais pas, mais dans le sens où, tu sais, des fois, il se passe des trucs, mais on ne sait pas si c'est parce qu'on est gay que ça les dérange ou pas.
Mm-hmm.
Mais, tu sais, c'est quand même marginal. Je comprends que ça arrive, là, mais c'est pas la norme. Et puis si ça arrive, la personne qui le fait va être sanctionnée plus sévèrement que si elle avait fait ça vers quelqu'un d'autre. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Je veux dire, le système judiciaire discrimine déjà en faveur des gays à l'heure actuelle.
Qu'est-ce qu'il y en est de la thèse du racisme systémique? Est-ce que vous êtes plutôt de ce côté-là?
Non, je pense aussi, je pense que... Évidemment, le racisme existe, on ne peut pas nier ça. Là. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont racistes, mais encore une fois, il n'y a pas un système raciste au Québec. Là. Les Québécois ne sont pas collectivement racistes. Au contraire, on a un passé qui est relativement reluisant quand on se compare à bien des sociétés ailleurs dans le monde. Et... je ne ressens pas que le t'sais, on n'est pas aux États-Unis, puis je trouve toujours qu'on importe ce débat-là. Malheureusement, souvent, on parle souvent que la droite est influencée par les États-Unis, mais j'ai souvent l'impression que c'est plus la gauche au Québec qui est influencée par les débats américains quand je les entends parler. C'est toujours des trucs qui se passent aux États-Unis qui essayent d'importer chez nous. C'est pas à Montréal là, qu'il y a un noir qui s'est fait tuer par un policier, puis c'est pas... Mais on importe ces débats-là, puis on n'a pas une histoire d'esclavage comme nos voisins du Sud non plus. Et on importe un débat qui, quant à moi, est pas nécessairement le plus... qui s'applique pas à notre réalité d'aujourd'hui.
Bien, on a pas le débat de l'esclavage, on a le débat par rapport aux personnes autochtones, par exemple. Ouais. Ça, c'est tout un autre enjeu.
C'est un autre enjeu.
Mais par exemple, c'est pas nécessairement de dire que chaque Québécois est raciste ou que les Québécois sont plus racistes que d'autres, mais plutôt de dire que, disons, le système qui est la police ou le système qui est le système des hôpitaux, par exemple, les personnes de couleur sont moins bien soignées. On a vu Joyce Echaquan, par exemple, puis c'est des incidents qui arrivent souvent. Les Noirs sont plus souvent arrêtés. Est-ce que ce ne serait pas une preuve que le système agit en défaveur de ces personnes-là?
Encore là, le système, c'est quoi le système? Il faudrait le définir, parce que moi, je regarde les lois. Je n'ai jamais vu aucune loi au Québec qui discrimine contre ces minorités-là. Au contraire. Quand il y a de la discrimination, c'est ce qu'on appelle de la discrimination entre guillemets positive, c'est-à-dire que c'est les minorités qui sont avantagées par rapport à la majorité. Donc, il n'y a pas un système. Là. On est loin du fait que des Noirs n'ont pas le droit d'entrer dans un autobus puis que des gens sont systématiquement refoulés puis n'ont pas le droit. Puis on voit qu'il y a un paquet d'endroits où c'est pris en considération à l'embauche. On voit que, par exemple, les emplois publics sont de plus en plus offerts à ces minorités. Donc, moi, j'apporterais un petit bémol par rapport au système. Là, moi, je sens pas que le système est toujours contre eux, au contraire.
Mais tout ça est assez récent. Est-ce que vous semblez assez confiant que ça va bien? Vous considérez pas qu'il y a encore...
C'est pas si récent que ça. Là. Des politiques d'accès à l'égalité, ça fait quand même plusieurs décennies que le gouvernement du Québec en a. Je regarde même la composition de la fonction publique. Vous allez voir que l'homme blanc, hétérosexuel, francophone est minoritaire, là. Et il n'y a pas de débat pour revenir en arrière non plus, mais je pense que l'activisme a fait ses preuves, puis en ajouter à un moment donné, ça devient contre-productif. Je prends souvent l'exemple de la faculté de médecine à l'Université Laval à Québec, où les femmes sont de beaucoup surreprésentées. Là, c'est du 3 pour 1, puis des fois du 4 pour 1, dépendamment des années. On s'entend, c'est les emplois les mieux rémunérés de tous les étudiants de l'Université Laval qui sortent à tous les ans, toutes les cohortes. Puis je regardais les programmes de subvention pour les étudiants, les programmes de prêts de bourse qu'ils font à l'interne.
Vous en vouliez une?
Puis, non, j'en voulais pas, mais je sais qu'il y avait, par exemple, il y avait eu un moment donné des gens qui voulaient instaurer une bourse pour des hommes. Et l'Université Laval a refusé, alors qu'il y avait déjà un paquet de bourses juste pour des filles. Et là, il faut se demander jusqu'où on continue à pousser le bouchon. OK. 80 % se passer, là, c'est quoi le chiffre magique? Là? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là? Moi, je commence à penser qu'on est allé très loin dans cette volonté d'égalité. Puis là, on n'est plus dans l'égalité. Là, quand on regarde, c'est pas juste en médecine, c'est pas juste à Laval. Les filles sont surreprésentées dans les universités au Québec présentement. C'est une question de temps avec leur revenu dépasse celui des hommes. On va continuer jusqu'à quand à promouvoir des programmes d'accès à l'égalité à un coup que l'égalité est atteinte?
Je pense pas qu'on peut, par contre, uniformiser ça. Par exemple, notamment, on pense à Polytechnique. Je pense qu'ils sont encore très sous-représentés.
C'est quoi le pourcentage de filles à Polytechnique, présentement?
Je vois que je le connais pas.
Moi, toutes mes amies qui sont là m'ont dit qu'elles étaient plutôt sous-représentées, mais ça dépend effectivement des domaines, puis c'est assez inégal. Après, c'est sûr que la médecine puis tous les domaines qui touchent aux soins des gens vont être... Les femmes vont y être sous-représentées. En droit aussi, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais c'est aussi justement parce qu'il y a eu des programmes de discrimination positive. Donc, on peut dire que ça a quand même porté fruit.
Mais à partir du moment où il y a plus que 50 %, il faut se dire que là, on n'a plus besoin de programme. Parce que l'idée, c'est pas que les femmes soient très majoritaires. L'idée, c'est d'avoir une égalité. D'ailleurs, ça s'appelle programme d'accès à l'égalité, pas accès à la supériorité. Là. Donc, il va falloir revisiter ça.
Puis vous n'êtes pas un adepte de la parité, si j'ai bien compris. Dans votre parti, vous aviez dit que c'était selon les compétences, surtout.
Moi, je regarde un candidat, je me fous de son orientation sexuelle, de ses origines ethniques ou de son sexe. Moi, je veux savoir est-ce qu'il va bien représenter les citoyens de sa circonscription. Et je pense que c'est comme ça que tout le monde devrait agir.
Puis est-ce que vous considérez qu'il y a des biais internes qu'il faut confronter pour se permettre d'avoir cette approche, c'est-à-dire que puisqu'on n'a pas été confronté à beaucoup de modèles de personnes noires au pouvoir, par exemple, ou de femmes au pouvoir, c'est plus difficile pour nous de considérer qu'ils sont compétents. Est-ce que c'est des choses auxquelles vous réfléchissez?
Je vous donne un exemple. Présentement, ils ont sorti des chiffres cette semaine. Je me souviens plus, c'était 41-42 % des candidats qu'on a annoncés sont des femmes. Puis là, ils disent qu'on est on est presque à la zone paritaire. Je ne savais pas qu'il y avait des zones paritaires, mais ça a l'air que ce n'est pas 50 une zone paritaire. Je pense que ça commence à 40 ou 42.
De 40 à 60, bon. Oui.
Alors là, mais c'est bizarre parce que je regarde la composition ethnique de notre équipe. Puis ça va surprendre bien du monde parce que les conservateurs, je ne sais pas pourquoi, mais ils nous associent toujours à des hommes blancs. Mais on est originaire, je pense, de 18 pays. Et puis on va probablement avoir une, c'est un député libéral même qui me l'a fait remarquer au football des Alouettes jeudi passé. On a probablement l'équipe la plus diversifiée au niveau des communautés culturelles de l'histoire du Québec. Et je ne vois pas personne qui s'indigne de ça. Qu'il le souligne. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, puis moi, là, je les ai pas pris. C'était pas une question là, qu'on a sélectionné de préférence. Là. C'est pour les raisons que je vous ai dit tantôt. Plusieurs de ces personnes-là, c'est des gens ou des enfants de gens qui ont fui des régimes totalitaires, qui sont venus ici pour la liberté, puis qui chérissent davantage la liberté que nous-mêmes. Donc, c'est un biais politique et idéologique. C'est pas un biais ethnique ou culturel. Mais ça donne le résultat que notre équipe est plus diversifiée dans ce sens-là. Mais, je veux dire, est-ce que j'ai un biais parce que j'ai choisi plus de candidats de communautés culturelles? Je pense pas. J'ai un biais pour la personne. C'est ça. On devrait tous être comme ça. C'est ça qu'on devrait dire. Il faut promouvoir le fait qu'on prend les meilleures personnes au meilleur endroit. Pis c'est ça que j'aime du libre marché. C'est pour ça que je suis un capitaliste et je suis quelqu'un qui croit à l'économie de marché. Parce que dans l'économie de marché, les gens qui discriminent sur des mauvaises bases, c'est les gens qui font faillite. Les gens qui, normalement, réussissent le mieux, c'est les gens qui prennent les meilleures personnes aux meilleurs postes. Et les systèmes de discrimination, c'est souvent bon dans des monopoles inefficaces, mais parce que ça n'a pas d'impact, d'incidence sur les résultats. Mais les gens qui sont orientés en fonction du résultat, en fonction du profit à la fin de la semaine, normalement, ils choisissent le meilleur au meilleur endroit parce que sinon, ils se font éliminer du système eux-mêmes.
S'il n'y a aucun député élu le 3 octobre, veux-tu aller de l'avant en tant que chef de
du parti? D'abord, je ne comprends pas pourquoi vous dites ça. On est deuxième dans les sondages. Ça voudrait dire que M. Legault aurait 125 comtés selon vous?
Non, mais on regarde présentement les chiffres et il y a une députée, donc on peut quand même se dire...
Non, il va y avoir une très forte cohorte de députés conservateurs. Combien on sera, évidemment, c'est aux électeurs à décider. S'il y avait une élection aujourd'hui, on serait entre 10 et 12. Mais bon, il nous reste encore 2 mois. Moi, je pense que les chiffres de la CAQ sont gonflés présentement. M. Legault a une visibilité comme jamais un premier ministre du Québec a eu. Il était pendant une heure à tous les jours live sur toutes les chaînes pendant des mois. Jamais l'opposition a eu une fraction de la visibilité qu'il a eu. Ça vaut une fortune. En campagne électorale, je pense que même les médias traditionnels vont être obligés de donner une part un peu plus égale aux partis d'opposition. Nous-mêmes, en tant que Parti conservateur du Québec, pour la première fois de notre histoire, on va être invités au débat des chefs. C'est quelque chose qui est déjà acquis. Donc, je pense que les choses peuvent changer le 3 octobre. Puis une élection, c'est faite pour ça. C'est fait pour que les gens s'arrêtent et se réfléchissent puis disent, OK, vers où on va, qu'est-ce qu'on veut. Puis moi, je pense qu'on a une offre qui est différente. Le Parti conservateur du Québec, à peu près dans tous les domaines, on propose quelque chose de différent par rapport aux 4 autres partis. En matière de santé, on va être les seuls qui vont dire qu'on veut additionner la contribution du secteur privé. En matière d'économie, de finances, on est les seuls qui veulent revenir rapidement à l'équilibre budgétaire, qui veulent diminuer les impôts, qui veulent suspendre la taxe sur l'essence. En matière de ressources naturelles, on est les seuls qui voulons exploiter nos hydrocarbures. En matière de garde pour les enfants, pour les jeunes parents, on est les seuls qui veulent donner l'argent directement aux parents qui n'ont pas accès à des garderies en raison du manque de place ou parce qu'ils ont des horaires atypiques puis qu'ils ne peuvent pas aller dans une garderie de 9 à 5 du lundi au vendredi. Donc, puis je pourrais continuer la liste encore longtemps. On est les seuls qui proposons la gratuité du transport en commun, etc. Donc, on est vraiment différents des 4 autres. Et puis on est les seuls, évidemment, qui, pendant la crise, se sommes levés pour dire que la démocratie, les droits civiques et les libertés individuelles sont fondamentales. Puis ça aussi, je pense qu'il y a des gens qui vont s'en souvenir.
J'ai une dernière petite question pour
Allez-y.
Vous.
Allez-y.
Est-ce que vous avez un ou une idole politique?
Plusieurs. J'en ai, en fait, quand j'étais jeune, un peu plus jeune que vous autres, j'avais 2 posters dans ma chambre de politicien. J'avais Margaret Thatcher, la première ministre britannique,
wow.
Et René Lévesque, côte à côte.
Okay.
Pourquoi? Parce que Margaret Thatcher, ce que j'aimais d'elle, c'est que c'était une femme qui ne reculait pas. C'était une femme qui présentait ses idées aux électeurs, qui disait ce qu'elle faisait, qui faisait ce qu'elle disait. Et ça, je trouve que ça manque beaucoup en politique, malheureusement. On a des politiciens. Puis M. Legault, c'est pour ça que j'ai été aussi déçu, parce qu'il a promis maire et monde, il a dit plein de choses, puis une fois au pouvoir, il a fait exactement le contraire. Il y en a qui s'en sont réjouis, ceux qui n'avaient pas voté pour lui, mais ceux qui, comme moi, ont cru en lui, on était très déçus. Et l'autre, c'est René Lévesque, parce que j'ai toujours trouvé qu'il y avait un côté modéré, que c'était le Québec d'abord et inconditionnellement, mais qui a toujours essayé de rassembler les Québécois. Puis j'ai toujours admiré sa capacité d'être une espèce de synthèse de l'âme complexe des Québécois, parce qu'on a toujours un rapport ambivalent, autant par rapport à notre appartenance au reste du Canada, que notre présence en Amérique, que notre attachement à nos cousins français. Donc, je trouvais qu'il était, c'était une belle synthèse de tout ça. Puis ces 2 personnes donc, qui m'ont profondément marqué dans ma jeunesse puis que je continue d'admirer.
J'avoue que je ne m'attendais pas à ça.
Je ne savais pas à quoi m'attendre.
C'est très rare que les gens soient surpris pourtant quand je parle.
Mais...
En tout cas, merci beaucoup, Éric.
Ça a été un plaisir. Merci à vous autres.
Conservateur, merci.